R22, tout R22, antenne, Radio Brouhaha.
Quoi de plus extra, une radio,
Bon, visiblement on a un problème technique. C'est très joli. Je vous avoue que j'ai mis deux petites secondes à réagir devant mon retour, quelque peu hypnotisé par cette expérimentation sonore fortuite. Mais, si vous écoutez en direct comme en podcast, vous êtes là pour la table ronde autour du cabaret, et pas pour une heure de music noise. Donc, pendant que la moi du passé éteint et rallume frénétiquement la carte son et le programme de diffusion, en espérant que ça résolve magiquement le problème, laissez-moi vous présenter les invités. Tout d'abord, nous avons Patrick Boucheron, historien travaillant entre autres sur le fait urbain et co-auteur de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Également, nous avons Abby Beach, artiste, danseuse et activiste féministe qui décolonise les dance floors. Enfin, nous avons Jérôme Martin, alias Monsieur K, directeur de cabaret et... Ah, il me semble que le souci est levé. Comme quoi, débrancher et rebrancher, c'est vraiment la solution technique universelle. Je laisse donc Lionel reprendre. Bonne écoute.
Et il se désigne lui-même comme cabaretiste en choisissant comme personnage la lettre, pour moi, la plus littéraire du XXe siècle, le K, qui est aussi le K de Karl Valentin et de Kurt Weill. Mais peut-être une question anecdotique pour commencer. Ce K, qui est celui de Karl Valentin et de Kurt Weill, il charrie pour moi d'autres K, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, le cas de Joseph K, le cas du dossier K de Kertész, ou le cas berlinois ou de la Middle Europa.
C'est un peu tout ça. C'est vrai qu'à l'origine, c'était parce que j'avais travaillé sur Karl Valentin, donc ce cabaretiste munichois du début du XXe siècle, et qu'après, j'ai commencé à faire Kurt Weill, et que l'une des écritures du mot cabaret en allemand, c'est avec un K, cabaret. Donc voilà, je me disais que c'était bien de mettre un point derrière ce K, ça laissait un peu de mystère, et je trouve qu'effectivement, c'est l'une des plus belles lettres de l'alphabet pour moi, le K. Je la trouve assez mystérieuse et étonnante, même si des fois, derrière, il y a des mots qui ne sont pas jolis, mais j'ai une grande affection pour cette lettre.
D'accord.
Parce qu'il y a le côté aussi, le K, tout simplement, C-A-S, qui est joli. C'est un K, ce monsieur, je ne sais pas.
Ouais. Alors, justement, pour rester sur la question de monsieur K, c'est une question que je pose à presque tous les invités de ces émissions, dans la mesure où ces émissions essaient de penser le rapport cabaret et littérature. Donc, qui est au fond monsieur K? Est-ce que monsieur K est un personnage qui évolue avec le temps, puisque je crois qu'on va fêter son 25e anniversaire l'année prochaine, c'est bien ça?
Oui.
Et donc, est-ce qu'il est un peu comme, est-ce que c'est un peu un roman de monsieur K que vous écrivez depuis 25 ans avec des évolutions? Et est-ce qu'on peut le caractériser comme un personnage?
Alors, c'est un personnage qui est arrivé après Karl Valentin, pendant Karl Valentin, même plutôt, je suis précis, pendant le travail que je faisais sur Karl Valentin. Et pour chanter les chansons de Kurt Weill, j'avais besoin d'un nouveau personnage. Évidemment, l'imaginaire collectif du cabaret avec le personnage du maître de cérémonie dans Cabaret de Bob Fosse était très présent dans ma tête, et j'avais envie d'un personnage qui ne soit ni masculin ni féminin, mais un peu les deux, c'est-à-dire une espèce de camion volé, quoi. J'ai toujours eu l'impression de démarrer et de me dire que j'étais une espèce de créature comme un camion volé que j'emprunte de manière un peu illicite. Et ce personnage est parti de la déchéance, je voulais partir de sa fin, en fait. Pour moi, pourtant j'étais jeune, mais pour moi c'était la fin du personnage, et j'ai l'impression, en fait, je fais l'inverse avec l'histoire de ce personnage. J'ai l'impression que je rajeunis, et pourtant il change de forme. Donc il était très famélique au départ, et là je suis un peu plus en chair, donc c'est le côté un peu plus généreux du personnage.
Et parfois vous avez envie de lui dire non, pendant 3 mois je veux plus te voir, pendant 6 mois je veux plus te voir.
Je n'ai pas le droit.
Non, vous n'avez pas le droit.
J'ai plus le droit maintenant.
Ouais, ouais, ouais.
Ça fait 10 ans non-stop à partir de novembre prochain. Je n'ai pas arrêté de faire Monsieur K, sauf pendant la Covid, et encore, voilà.
Ouais, ouais. Alors, vous êtes un des rares, quand j'ai mené ces recherches autour du cabaret, à vous présenter vraiment comme cabaretiste. Alors, qu'est-ce que vous entendez derrière le mot vous, cabaretiste? C'est quoi un cabaretiste?
C'est un artiste de cabaret. À un moment donné, c'est vrai que quand on faisait nos trucs un peu rigolos dans les arrière-salles de bar, à Marseille, aux EEH, au tango, dans les lieux, même dans des toilettes, on a fait ça aussi. Ben, il y avait ce truc, on savait pas ce qu'on se faisait, on s'amusait à le faire. Et puis après, s'est posé la question de savoir si j'étais comédien ou chanteur, sachant que j'ai jamais pris de cours de chant. Donc je trouvais un petit peu comme ça, un peu un voleur de quelque chose. Et puis comédien, en fait, j'ai pas l'impression que je fais de faire de la comédie. Moi, ce qui m'a toujours plu avec le cabaret, c'est le rapport à l'instantanéité vis-à-vis du public, c'est-à-dire cueillir ce qui va se passer pour en faire une force et pour pouvoir rebondir. Et même surtout, ce qui me plaît encore plus, c'est me mettre dans des situations dangereuses en termes de public. Et après, d'avoir la maîtrise sur le public pour faire qu'on soit tous ensemble. Parce que ce qui me plaît, évidemment, dans le cabaret, c'est l'idée de la messe collective, de la fête ensemble. Alors je suis parti ailleurs.
Ouais. Alors peut-être pour rebondir sur ce cabaretiste, il y a une autre catégorie que vous utilisez.
Ah, c'était pour le mot cabaretiste. Ouais, pourquoi pour ouais, Eh bien parce qu'à un moment donné, il a fallu. Il faut toujours donner des noms. Et un jour, Bruno Lobé, qui est l'actuel directeur du manège la scène nationale de Reims, qui travaille à Orléans, m'a présenté une artiste en disant "Je te présente Jérôme Marin, il est cabaretiste." Je me suis.
C'est bien ça.
Ah ouais, c'est bien, c'est ça, moi. Cabaretiste. Ouais. Parce que cabaretier, c'est le vendeur de limonade. Oui. Cabaretiste, moi, je trouve ça... Voilà, c'est un genre. Et pour le travail de créature qu'on développe de plus en plus, et ça, j'en suis très content, parce que ça ne nous range pas dans des cases comme on aime bien faire. Moi, je trouve que le mot cabaretiste, c'est une espèce d'ensemble comme ça, qui n'est ni masculin ni féminin, et que je trouve une assez jolie boîte.
Ouais. Et est-ce que ça veut dire aussi cabaretiste? Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui monte des projets sans cesse et qui fait un peu tout dans ces projets-là?
Non, c'est artiste de cabaret.
Artiste de cabaret, d'accord. Et l'autre catégorie que je vous ai vu utiliser, c'est celle d'indisciplinaire. Oui. Le cabaret indisciplinaire. Alors, c'est quoi le cabaret indisciplinaire?
Bah là encore, c'est pas moi, mais je trouve ça super. C'était pour le Festival d'Avignon en 2018 quand le secret était. Enfin, c'était pas le secret, c'était La Nuit sans retour était programmé. Ils ont mis ça sur. Le genre de spectacle qu'il allait y avoir au Festival d'Avignon dans la programmation officielle, indiscipline. Moi, je trouve ça super, indiscipline, parce qu'à un moment donné, on est tellement libre, encore au cabaret, je dis encore au cabaret, parce que je trouve que c'est terrible de voir la situation du théâtre, de la musique, de la danse, enfermée dans de plus en plus dans des contraintes. Nous, on est libre et on va le rester, parce que de toute manière, on peut... partir de la scène pour aller le faire, comme je disais, dans les toilettes par exemple, faire du cabaret. Donc l'indiscipline, c'est ça, c'est ne pas, c'est une espèce de liberté, c'est une espèce de fluidité, et moi je la chéris, cette fluidité, cette liberté.
Et cette indiscipline, elle peut fonctionner avec la nouvelle institutionnalisation du cabaret qui est en cours, au niveau ministériel même, hein. Est-ce que vous y contribuez?
Ben oui,
comment
la
voyez-vous?
Bien sûr, mais voilà, du coup, je...
Ouais, peut-être publiquement...
Je ne sais pas quoi dire, moi je trouve que c'est important. Moi, je me suis battu pour cette reconnaissance pour la simple et bonne raison, c'est que le cabaret, c'est le grand oublié du spectacle vivant en France depuis des années et des années, qu'il y a une mémoire, il y a une matière, il y a une force en France sur le cabaret qui a toujours été mis de côté, ignoré, cette mémoire. Ben voilà, les derniers grands du cabaret, ils sont partis. Cette mémoire, elle est où? On ne sait pas. Donc on a encore quelques-uns à avoir des bribes de choses dans la tête, savoir où les informations se situent. Mais moi, je trouvais ça important à un moment donné qu'on reconnaisse cette chose-là. Je donne un exemple. Il y a un grand festival de cabaret qui se fait, où effectivement l'esprit français, la tradition française est mise en avant. Je crois même que la directrice artistique était française. C'est Adélaïde en Australie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et quand moi j'ai commencé à faire du cabaret et à dire que je faisais du cabaret, que je faisais du cabaret, pas du théâtre, pas de la danse, du cabaret, on m'a dit vous êtes mignon. Non, ben non. Non, non, ça existe, c'est une tradition et c'est très fort. Et moi, je me réjouis que tout le monde redécouvre un peu l'histoire du cabaret, ce que c'est le cabaret, ce que ça a apporté le cabaret. Et voilà, et pour moi, cette reconnaissance, elle est surtout importante à ce niveau-là.
Oui, je dois dire d'ailleurs que sur cet aspect historien, et vous avez un historien à votre droite, mais sur cet aspect historien, vous y contribuez vous-même de diverses manières. Il y a notamment sur le site du Manège une série de conférences que vous avez faites pendant la période du Covid, et c'est assez amusant de revoir un peu les dispositifs qui étaient utilisés à cette époque-là, mais c'est quand même 6 heures de conférences, je crois, oui. Sur l'histoire du cabaret. Et puis, on a beaucoup parlé hier de la série documentaire de Céline Duchesnay. Vous avez été, je crois, un peu à l'initiative dans la discussion avec elle pour qu'elle mène celle-ci. Mais j'aimerais vous interroger sur une autre partie historique dans votre travail, c'est en voyant La Barbichette, par exemple, ou d'autres cabarets, je me suis aperçu qu'il y avait aussi une archive vivante de la chanson qui se jouait là. Et particulièrement vous, je crois que vous faites tout un travail de recherche à la fois sur la chanson allemande, la chanson française, la chanson Rive Gauche, la chanson d'après-guerre, qui, sans ça, pourrait être oubliée. Comment vous travaillez, d'ailleurs, sur quelles sont vos archives à ce niveau-là?
Ben, c'est juste la curiosité, en fait. Je suis curieux de la chanson, j'aime beaucoup la chanson. J'ai toujours aimé la chanson, et moi, je trouve ça super de pouvoir partager, de faire découvrir des choses, redécouvrir des choses. Je trouve que c'est une mémoire folle. Faut pas oublier que les cabarets aussi ont été, avant la radio et la télévision, les espaces de promotion de la chanson. Voilà, au-delà des chanteurs des rues, mais c'était aussi des espaces de promotion de la chanson. Donc le lien entre la chanson et le cabaret, il est très fort. Voilà. Moi, j'ai fait effectivement plutôt un cabaret chanté, mais je suis pas contre d'autres formes. C'est parce que j'aime ça.
Et vous en écrivez aussi des chansons?
Oui.
Et donc, quelle est la place de l'écriture aussi dans votre travail de manière générale?
Ben là, je l'ai laissé de côté, en fait, depuis l'histoire de Madame Arthur, je l'ai un peu laissé de côté. Et là, je la reprends. Je suis assez content de la reprendre. Tout à l'heure, je vais chanter une chanson de moi, mais je suis assez contente de la reprendre, de reprendre ce répertoire que je pensais pas être adéquat pour une fête un peu large, parce que c'est quand même des textes assez sombres, voire très très noirs, qui font appel à un imaginaire que moi j'aime bien, le roman noir du début du 20e siècle, les histoires de petites gens, de petites vies, et la tragédie et le mystère. Donc voilà, mais là je trouve que c'est le moment de, justement, après avoir fait tout ce que j'ai fait là en 10 ans, je trouve ça plutôt chouette de pouvoir m'en mettre à faire ce répertoire.
Et quand vous aviez travaillé sur le répertoire berlinois pour le spectacle K-Hunt, que j'ai pas eu la chance de voir, mais franchement j'espère qu'il retournera un jour. Va-t-il retourner?
Oui, en septembre.
D'accord. Vous pouvez nous en expliquer un peu le principe de ce spectacle et de ce travail sur la chanson? Je voulais vous poser une question sur la traduction. Est-ce que c'était des traductions que vous avez, ou des adaptations que vous avez faites vous-même, ou...
Pas que moi, parce que je suis pas du tout, je parle pas du tout l'allemand, mais j'ai travaillé avec des gens qui le parlent, et après moi j'ai fait l'adaptation pour qu'on garde un esprit quand même assez ludique dans la chanson, puisque c'est quand même la chanson cabaret, ou en tout cas de comédie musicale, de cette période du Berlin des années 20-30 est quand même plutôt joyeuse et assez ludique dans la facétie des mots. Donc moi j'ai fait ça. Voilà. Et c'est un répertoire qui est absolument fabuleux, parce que pour le coup on le connaît peu, on le connaît pas, mais si on écoute une chanson quelques-unes de ces chansons, on a l'impression que c'est des chansons qui ont été écrites il y a quelques années.
Oui. Bah d'ailleurs, j'en ai déjà parlé hier, mais le troisième épisode de la LSD sur le cabaret berlinois est saisissant de contemporanéité, quoi. Et même saisissant dans le mauvais sens du terme, en fait, assez effrayant.
Parce que c'est la période qui est aussi comme évidemment, ça fait écho.
Ouais, ouais. Je me posais une question sur la Barbichette est au Moulin Rouge, à la machine du Moulin Rouge. Oui. Je me demandais si pour un cabaretiste comme vous êtes, c'était un peu comme un écrivain publié chez Gallimard, arrivé au Moulin Rouge.
Oh là là, vous m'emmenez sur un endroit. C'est compliqué. Non, mais je pouvais pas refuser l'invitation du Moulin Rouge à venir. Ça ne se refuse pas. Voilà. C'est compliqué, évidemment. C'est pas la liberté que j'avais au truc du Père Lachaise, non, espèce de d'esprit foutraque, parce que voilà, c'est une grande maison avec des règles. Quand je dis une grande maison, c'est vraiment dans le sens physique des choses. C'est une grande maison. Et il y a des règles à respecter, mais je pouvais pas ne pas faire cette expérience. Vraiment, je l'aurais regretté toute ma vie. Ouais. Donc je le fais.
C'est ce que disent les gens qui publient chez Gallimard.
Oui, bah voilà. Et après, je publierai à compte d'auteur.
Ouais, voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas s'il y a un moment où vous devez sortir de
je
la
ne sais
table,
pas.
Mais vous le voyez en tout cas. Patrick Boucheron qui est à côté de vous. Alors je pense qu'ici, sous la verrière, beaucoup de gens connaissent votre travail. Patrick, vous êtes à la fois un historien qui porte sa discipline au Collège de France aujourd'hui, mais aussi qui joue un rôle assez considérable dans l'espace public. Je ne sais pas si tout le monde sait aussi, peut-être on en parlera tout à l'heure, que vous avez été dans l'équipe d'écriture de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ou peut-être de toutes les cérémonies, je ne sais pas si c'était...
De
toutes les cérémonies.
Des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Oui, et Paralympiques, donc on y viendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a conçu les émissions sur le cabaret, je n'ai pas immédiatement pensé à vous.
Ah bon ?
Non, pas tout de suite. C'est Jean-Max Collard qui vient d'arriver. Pardon, Jean-Max, de te nommer là. Mais c'est Jean-Max qui m'a dit, mais tu sais, Patrick Boucheron travaille sur un cabaret de la peste. Ça alors ? Et je me suis dit, nous nous sommes dit, ah bah tiens, on va l'inviter à la table pour qu'il nous en parle. Donc, c'est quoi ce cabaret de la peste ?
Si aller un peu vite en besogne, j'y pense, rêve, j'essaye de l'envisager et de l'espérer. Oui, je suis historien, comme vous l'avez dit, qui essaye de porter ma discipline ou une certaine manière de l'envisager, et une manière qui n'est pas toujours emportée. Enfin, je veux dire que je vous écoutais avec. Avec envie, je me disais, ce serait pas mal que, pour publier chez Gallimard, par exemple, un historien puisse raconter une histoire vraie, mais depuis un monsieur K, c'est-à-dire depuis un personnage imaginaire ou fictionnel. Fictionnel, ça ne veut pas dire nécessairement inventé, ça veut dire un petit peu à côté de ce qu'on est. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que pour être historien, pour l'être intraitablement, on ne doit pas se contenter de l'être. On doit accepter que ça déborde. Et moi, je travaille sur un sujet actuellement qui déborde. C'est la peste noire. C'est-à-dire une épidémie qui a tué en 5 ans, de 1347 à 1352, mais ce n'est que la partie paroxystique de l'épidémie. 60% de la population européenne. Et je travaille là-dessus depuis longtemps et je fais un livre. Mais faire un livre sur la peste noire, à partir du moment où la peste déborde, elle excède, c'est pas seulement cet événement, c'est une maladie dont nous sommes encore les porteuses et les porteurs, nous sommes les survivants de la peste noire, et puis de toute façon c'est une maladie qui, comme l'a montré Suzanne Sontag, est inséparable de ses métaphores. Et dès qu'une épidémie revient, le sida, la Covid, eh bien, c'est toujours la peste de quelque chose. Et donc, c'est très difficile, au fond, de se tenir à son sujet et de ne pas se laisser emporter, déborder, y compris par l'émotion, d'ailleurs. Et ça, c'est la question de savoir est-ce qu'il est écrit au ciel que la place d'un historien est toujours dans son livre. Il peut s'en extraire. Mais s'il a quelque chose à en dire, alors il faudra qu'il trouve autre chose, un autre lieu. Moi, c'est plutôt le théâtre. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai un livre là, et puis il y a des choses qui en débordent, des morceaux qui tombent, et le théâtre de la peste va le recueillir. Le théâtre de la peste, parce que Antonin Artaud, dans les années 30, a fait une célèbre conférence à la Sorbonne qui a déplu à tout le monde s'est moqué de lui, etc., sur le rapport entre l'épidémie et le théâtre. Qu'est-ce qui fait, comment, au fond, on se transmet une émotion.
Et oui, c'est le mot de contagion même.
C'est le mot de contagion.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire la beauté qu'il y a là-dedans, dans cette inflammation de l'imagination, ce fléau d'imaginer, qui fait que au fond, on appelle peste ce qui déborde, ce qui excède la capacité à le dire. Mais le théâtre, moi je ne suis pas un auteur de théâtre, donc je travaille depuis longtemps, notamment au Théâtre National de Bretagne, avec Arthur Nosiciel, qui lui-même n'est pas sans... qui est intéressé par cette esthétique du cabaret, des années 30, etc. Et là, on est plutôt, mais enfin, je parle vraiment des prémices, on est plutôt sur l'idée que, ben, finalement, ce qui serait le plus adéquat à cette hantise, c'est pas le théâtre, c'est le cabaret.
Et pourquoi alors ?
Ben, peut-être parce que, justement, je disais que ça se détache par morceaux et que le caractère à la fois joyeux et désespéré, apparemment désinvolte mais organisé, lié par un meneur de revue qui est dedans et dehors, et puis essentiellement fragmentaire, correspond bien à ces éclats d'histoire qui ne trouvent pas place dans un récit. Donc je ne veux pas dédoubler le récit. Puis vous savez, quand on est autre chose qu'écrivain, dès qu'on fait, dès qu'on s'essaye à une forme artistique, c'est toujours inévitablement démonstratif. Voilà. Moi, j'ai commencé à écrire, en fait, je me disais, ok, très bien, finalement, je vais le faire écrire par d'autres. Et puis les numéros, c'est faire écrire par d'autres. C'est-à-dire, et donc là, je travaille avec des plus jeunes, bien plus jeunes que moi, qui vont me les écrire, mes scènes. Bien mieux que je ne saurais le faire.
Mais si j'ai bien compris, par exemple, dans l'expérience de Jérôme, il y a très très peu d'écriture des numéros préalables, et notamment le maître ou la maîtresse de cérémonie écrit très peu. Il y a beaucoup de place laissée à l'improvisation chez vous.
Oui. Bah c'est, enfin, il y a différentes façons de faire du cabaret, en fait.
Mais... Et quand je dis écrire, par exemple, j'ai parlé de la peste à des élèves, là, en l'occurrence, c'est une toute fraîche expérience, ça date d'il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous inventez, qu'est-ce que vous écrivez? Il y a une jeune femme qui arrive en dansant le fado. C'est ça l'écriture, hein, c'est pas forcément faire des phrases. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça peut être ça. Pourquoi le fado? Parce que ça vient des ports, comme la peste, et qu'on peut faire, on peut faire comprendre quelque chose de ce que c'est qu'une contagion émotionnelle, de la frénésie des corps, de la souffrance, en dansant.
Mais si je peux me permettre, même le rapport au macabre, le rapport à la maladie, il est depuis très longtemps, lié à la musique, à la danse, je parle les danses macabres, les tarentelles, la chanson, et le cabaret célèbre le macabre depuis très longtemps, puisqu'après le Chat Noir, on voyait bien les images du cabaret de l'enfer, le cabaret du néant, le cabaret des... Enfin, il y a eu plein de cabarets très macabres avec un imaginaire macabre, parce que je pense que c'est aussi un espace où on peut aller vers l'excès, l'extrême, tout en parlant sérieusement des sujets, c'est-à-dire à un moment donné, on utilise des masques pour pouvoir parler et on se grime et on est excessif et on est grotesque et voit des fois ridicule ou même trop tragédien pour pouvoir parler de choses politiques, satiriques. Le cabaret est un endroit de satire.
Je crois qu'on retrouvera ça tout à l'heure quand on parlera aussi du voguing, du walking, mais peut-être, comme on a la chance de vous avoir ici à cette table, en parlant de cette tradition, vous qui êtes spécialiste de cette période qui va de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance, quoi, hein, je ne me trompe pas en disant cela, est-ce qu'au fond, c'est la tradition du carnavalesque là, dont on parle, dont Jérôme Marin vient de parler? Est-ce qu'il y a des formes populaires de théâtre, d'expression qui renvoie au cabaret dans ces époques-là?
Il y a celle-là, il y a le carnaval, il y a la danse macabre, si tant est que cette danse macabre ait réellement existé comme danse, qu'elle a été vraiment chorégraphiée, ce qui n'est pas évident, mais voilà. C'est d'ailleurs assez intéressant, puisque c'est l'image que l'on associe le plus spontanément à la peste noire, mais elle lui est très postérieure, de presque un siècle, donc ce qui crée aussi les conditions de la compréhension de ce que c'est qu'une latence. Enfin, quand on vit quelque chose, on ne trouve pas immédiatement la forme expressive ou artistique qui va en rendre compte. De l'histoire des spectacles, moi je suis nullement spécialiste, mais on voit bien qu'il y a deux manières de la conduire. Depuis une origine solennelle et démocratique, disons grecque, la tragédie, et puis ensuite les comédies, mais les tragédies et les comédies gréco-latines au Moyen-Âge, elles sont connues, mais de manière très... à la fois très heurtée, très feutrée, enfin, très amortie. Et puis il y a d'autres formes, qui sont des formes plus spontanées, pas forcément plus populaires. Ce qui ressemble le plus à un cabaret disons à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, c'était un banquet. C'était un banquet avec des entremets. Alors le mot entremets a changé de sens. Pour nous, c'est un dessert. Au Moyen-Âge, c'était ce qu'il y avait entre les plats. Et entre les plats, il y avait des numéros. Et ces numéros étaient chantés, dansés, récités. C'était de la poésie, c'était drôle. C'était le plus souvent, d'ailleurs, assez macabre, parfois parodique, cynique. Voilà, c'est ce qui ressemble le plus. Et c'est là, pour le coup, on est plutôt dans la forme aristocratique d'une transgression contrôlée, ce qui est le cas du cabaret aussi, du carnaval également.
Oui, et puis ça renvoie à ce que nous disait Camille Paillet hier, qui, elle, est historienne du spectacle au 19e et qui parlait des débits de boissons, de l'importance des débits de boissons, le lien du cabaret avec l'histoire du début de boissons. Je me posais une question, parce que est-ce que ça a vraiment existé, l'épidémie de danse? Ou est-ce que c'est un mythe, vous savez, celle dont on parle?
Oui, bien sûr.
Au 15e, 16e siècle, 16e peut-être, non?
Oui. Mais c'est probable quand même, et en particulier en Italie du Sud.
C'est probable.
Et qu'est-ce que c'était? Alors, là encore, il y a plusieurs manières de l'interpréter. La manière la plus platement explicative, rationaliste, c'est de dire ils ont bouffé quelque chose de pas bon, qui les fait convulser. C'est toute la question de l'ergotisme, l'ergot du seigle qui rend effectivement frénétique la danse. Mais si vous prenez par exemple un des grands anthropologues magnifiques qu'on peut relire, qu'on doit relire aujourd'hui, Ernesto Damartino, sur le pays magique, il montre que d'une certaine manière, dans l'Italie qu'il connaissait, c'est-à-dire l'Italie du début du XXe siècle, demeure encore observable des conservatoires de ces danses, en particulier napolitaines. Bien sûr que c'est contagieux, la danse.
Oui.
Mais, je veux dire, tout le monde en fait l'expérience. Voilà, sinon il n'y aurait pas de boîte de nuit et sinon on ne ferait pas la fête. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des explications épidémiologiques ou anthropologiques trop compliquées pour comprendre que quand quelqu'un danse sur un rythme entraînant, il entraîne tout le monde à danser avec lui ou avec elle.
Donc, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous passez du théâtre au cabaret, c'est qu'il y a une contagion peut-être plurielle, on l'a vu hier à plusieurs endroits quand Machakil s'est grand gaillard.
Puis ça me semble foutraque, ça me semble aussi moins
c'est pas la catharsis,
c'est pas moins ambitieux, mais c'est effectivement plus adéquat à des formes effectivement indisciplinées d'histoire, parce que c'est la même chose aussi, c'est la question de l'indiscipline.
Pour cette cérémonie d'ouverture, donc revenons-y, je pense que beaucoup l'ont vu ici et là, il y a une présence de la tradition.
C'était très lié en fait. Ça n'a pas toujours été interprété comme tel, parce que c'est pas grave. Justement, on va peut-être un moment se décider à publier le storyboard, va expliquer, c'est pas la peine de mettre des notes de bas de page, mais par exemple, tout ça était très dansé, et puis on s'est dit, tiens, ce qui serait marrant par numéro. En fait, on n'appelait pas ça des numéros, on appelait ça des tableaux, parce que c'est des tableaux vivants. L'idée étant quand même de développer un discours pas trop indigne de, non pas de la France au monde, on ne va pas faire des leçons au monde, mais ce que, parce qu'on était en France, on pouvait dire à un public mondial. Sur la danse, par exemple, on trouvait assez intéressant que le premier morceau de la première cérémonie d'ouverture des JO, soit du French Cancan, et le dernier morceau de la dernière cérémonie de clôture des Paralympiques, donc à la fois un mois et demi plus tard ou 12 heures après, si on met toutes les spectacles bout à bout, soit de la French Touch, parce que de l'un à l'autre, il y a effectivement deux danses qui se sont globalisées depuis la France. Mais il y avait, à partir donc du premier numéro, le French Cancan, Lady Gaga, on étirait sur la scène une histoire suggérée, sinon du cabaret, du moins du spectacle populaire, avec, mais ça n'a, alors après, est-ce qu'on l'a vu, est-ce que ça a été suffisamment bien filmé, réalisé, c'est une autre question, mais pendant que Lady Gaga chante, on est, enfin, av- avant même qu'elle chante. On est dans les années 1830, il y a un hommage à la caricature, il y a des grotesques, justement, des gens avec, sur les quais hauts, avec des masques, des grandes têtes. Et là, on est véritablement dans le guignol. Et si on avait mieux vu ces têtes de guignol, on aurait mieux compris que la tête coupée de Marie-Antoinette à la conciergerie, c'était du grand guignol. C'est-à-dire qu'on avait passé un peu de temps de l'histoire théâtrale par le French Cancan, depuis effectivement le cabaret de 1830 jusqu'au théâtre du boulevard du crime de la fin du 19e siècle. Bon, voilà. Moi, il me semble que c'était suffisamment clair. Il y avait du carton-pâte, il y avait des... Bon, voilà, on voyait bien que ce n'était pas du vrai sang. Mais c'est la question, effectivement, de l'illusion théâtrale. C'est que quand on ne veut pas comprendre, c'est très simple de ne pas comprendre.
Ouais, ouais. Et alors, à l'inverse, parce qu'on pourrait aussi dire que certains l'ont très bien compris, donc il y a une dimension un peu de queerisation, de France-monde, ou d'histoire mondiale de la France qui s'exprimait là. Est-ce que, je vous pose cette question à vous, mais Bibiche et Jérôme Marin peuvent se sentir concernés aussi, est-ce que d'une certaine manière... vous ressentiez une dette à cette scène qui fait émerger d'autres récits dans le cabaret ou ailleurs? Et est-ce que celles et ceux qui amènent ces nouveaux récits se sont retrouvés là-dedans, quoi?
Ah oui, bien sûr. L'idée, c'était quand même pas seulement... On n'allait pas faire le catalogue de ce que la France avait apporté au monde. C'eût été indécent. Et puis, on n'est pas en position de le faire, historiquement. Sur deux, trois sujets, si. Par exemple... la liberté des corps, oui, c'était pas inintéressant de faire voir ça à très grande échelle, mais ça, on peut en discuter. Et la liberté sexuelle, oui, je pense que c'est... Ben, oui, ça a très bien été... On a voulu dire quelque chose et ça a été dit. Mais de ce point de vue-là, oui, toutes les références étaient mêlées, et y compris les références très dark, très sombres. Au moment... effectivement, à la fin, quand la nuit tombe, il continue à pleuvoir, mais ça, c'était pas prévu. Les lumières, on est dans l'obscurité. Le cheval de l'Apocalypse, on n'est pas très loin de la peste. Ce sont des formes théâtrales, si tant est que tout ça ait été du théâtre, mais dans ce cas-là, c'est du théâtre sans parole, des formes théâtrales qui empruntaient de manière plus ou moins... explicite ou voilée, à plein de traditions européennes et pas seulement mondiales, en fait.
Jérôme, vous l'avez vu comme un cabaret, cette cérémonie, vous ?
Moi, je l'ai vu comme un acte de liberté d'expression, fort. Je l'ai vu aussi comme la capacité de pouvoir se moquer aussi de cette histoire qu'est la France. Et puis après, moi, je vous avoue, j'ai quand même été très touché qu'on rende hommage à Zizi Jeanmaire, qui est quand même la grande vedette du musical que l'on a oublié largement, qui est mort quasiment dans un silence des médias fou, alors que cette dame avait plus de 90 ans. Voilà.
Et puis c'est pas évident, par exemple, sur le... Bon, il y a plein de choses qui sont... Enfin, je veux dire, c'est problématique, le French Cancan, aujourd'hui. C'est problématique. Le Moulin Rouge, ça peut l'être aussi. Mais il faut expliquer. Voilà, c'était une danse antimilitariste, fondamentalement antimilitariste, et qu'il y a une histoire subversive.
Le chahut, d'abord. C'est une danse féministe, même. Voilà. C'est, je veux dire, les femmes prennent le pouvoir dans le bal. Ouais. C'est une danse qui impose... Voilà.
Oui. Vous le savez, on le sait, mais après, quand il faut aussi, quand on s'adresse à des gens, des millions, plus,
oui, bien sûr.
Il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui vont le prendre dans un autre sens. Je ne dis pas qu'ils ont tort, mais simplement, il faut donc. C'est ça qui est compliqué. Il faut souligner par d'autres effets, sinon une intention, du moins une portée critique. Quoi, voilà.
Alors, Abibitch, on ne vous a pas entendu sur ce débat, mais on arrive à vous. Vous êtes danseuse, mais aussi conférencière, performeuse. Mm-hmm. On vous verra tout à l'heure comme performeuse et comme danseuse. Mm-hmm. Mais on pourra vous voir malheureusement que si on a pris les billets, parce que vous êtes trop populaire, en fait, Abibitch. Dès qu'on annonce un spectacle de vous en une heure, c'est sold out. Il paraît qu'il y a même tout un mouvement qui vous veut à la présidence en 2027. Et je dois dire que ça ne me déplairait pas. Donc, nous verrons bien. Mais en tout cas, vous êtes en tournée avec le spectacle conférence Décoloniser les dance floors. Mmh. Je pense une première question qui est un peu la question récurrente de ces émissions, qui est celle que j'ai proposée à propos de Monsieur K. Comment s'est construit le personnage Abby Beach? Est-ce que c'est un personnage de fiction qui évolue avec le temps? Là, moi, j'ai à côté de moi Abby Beach, alors que j'ai Jérôme Marin et Monsieur K, il viendra après. Mmh. Non, là, c'est bien Abby Beach. Donc, qui est Abby Beach et comment Abby Beach se déploie?
C'est une vaste question. Bonjour Paris, bonjour la France, bonjour le monde. Oui, moi je pense que toute la vie est un cabaret de toute façon et qu'on ne fait que naviguer cette espèce de spectacle géant et qu'à l'intérieur on se crée des personnages un peu pour y survivre, un peu pour y performer, un peu pour y dire des trucs, ce qui est mon cas parce que moi je suis un être excessivement politisé et politique de par mes identités, de par mes expériences et de par ce que j'en fais. Et du coup, effectivement, j'ai besoin d'une sorte de personnage de fiction pour pouvoir porter tous ces combats, porter tous ces discours. Après, le personnage de fiction est très entremêlé à mon personnage de vie, à ma vie civile. Mais c'est vrai que quand je parle de mon travail, j'aime bien me cantonner au personnage d'Abby Beach, et pas à ma vie, en fait, perso. Ça me permet de faire une petite différenciation parce que du coup, j'ai une forte présence sur les réseaux sociaux. Oui. Et parfois, ça, c'est... C'est un cabaret qui devient un peu intrusif dans la vie réelle et la différence est un petit peu plus difficile à faire parce que du coup, moi, ma scène, je suis sur scène très régulièrement, donc je suis quelqu'un qui fait beaucoup de scènes, beaucoup de seules en scène en particulier, mais ma scène est aussi sur mon téléphone, en tout cas dans mon téléphone, et du coup, c'est dur de, d'être circonscrite en fait à juste cette scène-là, quoi, à juste mon téléphone qui deviendrait ma scène et puis moi, ma vie privée qui serait à côté. Donc c'est les nouvelles addictions aussi de des temps actuels, quoi. Donc c'est vrai que le personnage d'Abby Beach, il est parfois un petit peu il empiète un peu parfois sur ma vie.
Alors malheureusement les intelligences artificielles dans nos téléphones ne sont pas d'accord avec ça, parce que moi sur mon téléphone hier c'est un prénom qui est apparu quand vous m'avez envoyé un SMS. Mais et oui, ça a effacé, ça a effacé le nom Abby Beach, j'en étais désolé. Est-ce que vous avez l'impression, on a parlé de cette scène actuelle, de cette scène commune, est-ce que vous avez l'impression de participer à une scène commune avec la scène du cabaret où vous êtes produite chez, au cabaret de Poussière je crois, au moins une fois avec Madame Arthur, la barbichette, etc., ou la bouche, est-ce que vous participez de cette scène ou c'est deux scènes complètement distinctes, la vôtre étant, on va y venir, celle du
ballroom. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas, de façon générale, je trouve qu'il n'y a pas assez de convergence, ni des luttes, ni des endroits artistiques, ni des espaces-temps intellectuels et culturels. Du coup, moi, je suis ravie de ce genre d'échange, parce que je n'ai pas participé, mais j'écoutais de façon très attentive, parce que je trouve qu'on a besoin de faire plus de ponts. Et même au sein de nos milieux culturels, je trouve qu'il n'y a pas assez en fait, de rencontres, il n'y a pas assez de discussions, et que globalement, dans la gauche, parce que j'imagine que tout le monde ici est de gauche.
Merci,
foule en délire. Bon, moi, je suis à l'extrême gauche de la gauche, donc bon, on va peut-être pas être d'accord sur tout, mais je trouve que globalement, ce qui nous manque dans la gauche, c'est la convergence. Je ne vais pas forcément parler d'intersectionnalité pour plein de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, mais il faudra venir me voir sur scène quand je ne ferai pas des sold out en 3 minutes. Mais je trouve qu'on manque de convergence dans nos discussions, je trouve qu'on manque de convergence dans nos pratiques artistiques, dans nos pratiques historiques, dans nos rapports à l'histoire. Moi aussi j'ai une formation d'historienne, et de sociologue, et du coup forcément c'est du savoir que j'infuse dans toute ma pratique artistique, mais je trouve qu'on en manque en fait de ces ponts-là, et je ne trouve pas nécessairement qu'on soit très connecté, non? Ouais. Je trouve que ça agit plus en parallèle.
Ouais. Alors peut-être que tout le monde est de gauche, c'est qui est pas sûr, mais je suis sûr que tout le monde ne connaît pas la scène du voguing. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette scène et comment toi tu y es arrivé? Est-ce qu'elle vient interpeller en toi à un moment où tu es plutôt étudiante, sciences politiques, etc. Et qu'est-ce qui vient rencontrer? Donc voilà.
Ouais, du coup, c'est la scène ballroom, parce que le voguing, c'est la forme dansée de la scène ballroom, qui est une scène et une communauté qui est bien plus complexe et riche et variée qu'une simple danse. Mais le voguing est plus connu, c'est la partie visible de l'iceberg, on va dire. Donc c'est ce qui a été le plus capitalisé, le plus mainstreamisé de cette scène, mais qui est une scène qui est née pour des raisons politiques, donc qui est intrinsèquement politique, pas nécessairement politisée, mais intrinsèquement politique dans la mesure où elle est née à la fin des années 60, donc dans l'immense période de conscientisation politique autour de l'enjeu de race aux États-Unis et en Europe. Mais cette scène est née aux États-Unis en même temps que le hip-hop. Donc j'imagine que vous voyez ce que c'est le hip-hop. Oui, foule en délire, le retour.
Les Français de gauche disent oui.
Et bien la ballroom, c'est la même chose que le hip-hop, mais pour les homosexuels, parce que les homosexuels faisaient aussi des choses autour de la race, donc de la race sociale, on s'entend, la race biologique n'existe pas, comme le genre, ce sont des construits sociaux. Et donc la communauté LGBT a créé la ballroom en même temps que la communauté hétérosexuelle, puisque la communauté hétérosexuelle existe, et elle est OK, nous vous acceptons les hétérosexuels. La communauté LGBT a créé la ballroom en même temps que le hip-hop pour les mêmes raisons, à savoir la surprésence des personnes blanches dans les compétitions de drag queen, de beauté de drag queen de l'époque. Et du coup, les queens noires et latinas de l'époque ont décidé de quitter en fait ces compétitions de beauté de drag pour créer leur propre espace for us by us, donc vraiment dans cette optique de créer des communautés pour soi et par soi, et de créer leur propre compétition de drag à l'époque qui se sont appelées des balls rapidement parce que les endroits qu'elles pouvaient se permettre de louer étaient des salles de bal, des ballrooms, et par métonymie rapidement ça a donné son nom à la communauté, donc la communauté ballroom, la scène ballroom, qui s'incarne dans plein de catégories. Si vous venez voir un ball un jour, vous verrez qu'il y a des catégories à outre mesure, et notamment dans une danse, donc le voguing, qui est une de mes danses de spécialité. Voilà.
L'autre danse étant le walking.
Ce sont les danses cousines.
Voilà. Et est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que je crois qu'il y a aussi la volonté de se distinguer du voguing avec des enjeux aussi peut-être politiques aussi. Même si le walking est moins politique selon vous que le.
Bah en fait. Ce sont des prismes anachroniques presque de dire que le voguing et le walking sont plus ou moins politiques, c'est-à-dire que c'est des prismes qu'on a maintenant, nous, en 2025. Quand ces danses sont nées, elles sont nées d'endroits de résistance et de résilience, comme je viens d'expliquer, parce que la résilience, c'est un vrai concept socio-analytique, c'est pas un hashtag sur Instagram, justement. Je déteste Instagram autant que j'adore Instagram, sachez-le. Mais ce sont des endroits de marge, en fait. Donc, du coup, moi, dans mon travail, je questionne la marge. Étant moi-même l'incarnation de plusieurs marges, parce que je suis algérienne, je suis née en Algérie, je suis une personne queer, je suis une personne identifiée comme femme, donc j'appartiens à la classe des femmes, donc je subis le patriarcat. Je suis danseuse professionnelle, mais j'ai un corps qui n'est pas forcément associé dans l'imaginaire collectif à ce que c'est être danseur ou danseuse professionnelle. Donc j'incarne vraiment une intersection de marge, et donc ce qui m'intéresse, moi, dans la vie, c'est la marge, et comment elle se mélange au centre, comment elle est appropriée par le centre, et qu'est-ce qu'elle devient quand elle est aspirée par le centre. Est-ce que la marge a besoin de rester à la marge pour pouvoir représenter une subversion, en fait, au pouvoir, ou est-ce qu'à partir du moment où elle devient sur le devant de la scène, en fait, finalement, comme aux Jeux Olympiques par exemple, est-ce qu'elle garde son potentiel subversif, son potentiel révolutionnaire qu'elle a au départ à sa création dans l'underground, en fait, dans l'alternatif, parce que c'est le cas du hip-hop, c'est le cas de la ballroom, c'est le cas du walking. Là, quand je vous pose la question, est-ce que vous voyez ce que c'est le hip-hop, tout le monde me dit oui, puis tout le monde rigole. Le hip-hop, quand il est né, déjà, ça s'appelait pas le hip-hop, c'était un mouvement de revendication raciale et de classe sociale pour sortir de la violence de race et de classe du New York des années 60, et c'était très alternatif, c'était très underground, c'était pas du tout ni mainstream ni connu. Pareil pour la ballroom, ce sont des espaces-temps communautaires qui ont été créés par et pour des personnes racisées, donc qui subissent le racisme, pour résister justement aux oppressions structurelles qu'elles subissent. Et donc du coup, que ce soit plus ou moins politique, en fait, ça questionne plutôt ça questionne l'enjeu du capitalisme pour moi, parce que là où le bas blesse finalement dans les contre-cultures, j'emploierai pas le mot de sous-culture que je trouve un petit peu condescendant, mais dans les contre-cultures, c'est le capitalisme qui vient toujours les décontre-culturer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que ça questionne, en fait, tous ces trucs-là. Moi, c'est au centre de mon travail aussi, cette espèce de dichotomie et cette relation presque intrinsèque, hein, de la marge et du centre, quoi. Est-ce qu'on a besoin aussi du centre pour exister en tant que marge? Qu'advient-il des marges si elles sont aspirées par le centre? Et qu'est-ce que ça veut dire du centre si d'un coup il se saisit des marges pour exister? Est-ce que ça devient performatif? Enfin voilà, c'est beaucoup de questions que je pose, beaucoup de questions, je n'ai pas forcément beaucoup de réponses.
Est-ce que ce sont les questions qui sont posées dans cette conférence, performance qui s'appelle « Peut-on décoloniser le dance floor ?» dont je signale, parce qu'il faut toujours le dire, que la première fois que je l'ai vu émerger, je ne sais pas si c'était son premier embryon, c'était pendant le festival Loud and Proud.
C'était une commande.
Qui était proposée par Anne Pauly et Fanny Corral.
Et, oui.
Voilà. Et donc, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-on décoloniser le dance floor? Et qu'est-ce qu'on voit quand on va voir?
Alors, j'adore la réécriture du titre. Ah. Peut-on décoloniser le dance floor? Ça s'appelle juste décoloniser le dance floor. Non, mais j'adore. C'est très proactif. Ouais. Oui, bah, ça, c'est un seul en scène. Donc, c'est du stand-up queer féministe radical décolonial. Donc, c'est, bon, c'est particulier. C'est assez hybride comme moi, finalement. C'est moitié une conférence de socio-histoire et moitié un micro-spectacle de danse et moitié beaucoup de blagues parce que je crois beaucoup en la pédagogie par l'humour, le sarcasme et la satire. Et oui, c'est un questionnement de la norme. Je pense que ce qui me fascine dans la vie, c'est la norme et comment la norme fonctionne. Donc ça revient à ce que j'étais en train de dire sur le centre et la périphérie, sur le centre et les marges. Je trouve que la norme est fascinante et j'interroge ces fonctionnements, je les questionne avec comme fil rouge le racisme, parce qu'en France, parler du racisme, croyez-moi, c'est pas facile, surtout dans la France de gauche. Donc moi, je fais des blagues sur la France étant un pays de droite, parce que je trouve que, enfin, historiquement parlant, la France est un pays de droite. Donc j'ai pas trop de problèmes face à des gens de droite à leur dire qu'ils sont racistes, même si c'est de plus en plus compliqué. Mais il y a une existence certaine et factuelle du racisme de droite. Ce qui est plus difficile à confronter et à adresser, c'est le racisme de gauche, ce qui est un petit peu du coup. Mon cheval de bataille, c'est le racisme de gauche, c'est l'appropriation culturelle comme une tentacule du racisme systémique, c'est l'humour raciste, c'est bon, tout ce qui concerne le racisme de gauche, voilà, que vous aurez l'occasion de découvrir à travers mon travail, j'imagine. Mais oui. C'est un peu ça, décoloniser Dance Floor. Ouais.
Ouais. Et je ne sais pas si c'est plus facile à Bruxelles, mais il y a un endroit où tu as confronté le racisme de tes spectateuristes, je dirais.
C'est mon TED Talk.
Vous avez fait un TED Talk.
Tu peux me tutoyer, ouais,
allez,
on
te tutoie. Oh, tu as fait un TED Talk.
Ouais,
voilà,
un TED Talk.
Et alors, du coup, on ne peut pas voir décoloniser les dance floors, il n'y a pas de capsule en ligne, mais on peut voir le TED Talk.
Ouais.
Et je l'ai regardé et c'est assez surprenant parce qu'on sent que le public n'est pas entièrement conquis par le discours. Et je me demandais si tu y étais arrivé véritablement comme performeuse, c'est-à-dire en travestissant ou en parasitant la commande, ou si tu y arrivais plus comme conférencière en l'apprenant. Voilà, ça m'intéressait comme forme performative, quoi. Et si tu avais piégé tes commandes.
Mais moi, mon identité de genre, c'est pirate. Donc voilà, c'est mes pronoms, pirate. Et à chaque fois que j'ai un temps de parole ou un temps de performance, j'essaye de le pirater le plus possible, et de le subvertir le plus possible. Donc effectivement, quand on m'a proposé de faire un TED Talk, ma première réaction, ça a été de me dire comment je vais pouvoir les hagar, mais intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire? Comment je vais hagar? Ça va bientôt rentrer dans le dictionnaire, je pense. Non, comment je vais pouvoir les attraper, en fait? Oui, les piéger d'une certaine manière, mais intelligemment, puisque c'est ce que je fais de mieux, je pense. Et ça a été beaucoup de travail. Un TED Talk, c'est 14 minutes avec une petite horloge comme ça en face de vous qui découle le temps de façon dégressive. C'est absolument hyper anxiogène, mais c'est 3 mois de taf pour en arriver là. Et oui, si vous regardez mon TED Talk, vous verrez que je fais dire à l'ensemble du théâtre Wallonie-Bruxelles, que c'était 650 personnes, je suis raciste. Je les fais crier, je suis raciste. Donc j'essaye de les libérer comme ça de cette espèce d'omerta globale de la gauche européenne qui refuse de s'admettre raciste et qui refuse de s'admettre une partie du problème. Donc l'idée, c'était ça, c'était de pirater. Mais après, pour moi, c'est une mise en scène. Donc même quand je prends la parole dans mes conférences, c'est un spectacle en soi. Donc je suis pas un moment performeuse et un moment conférencière. C'est-à-dire que mon spectacle, Décoloniser le dance floor, c'est un spectacle. C'est, tout est mis en scène, en fait. Tout est écrit, tout est mis en scène, tout est incarné, tout est pensé aussi par le corps, puisque bien sûr que la corporéité, c'est quelque chose de très important dans mon travail. Ça, c'est fondamental, quoi. Donc tout va ensemble.
On me fait des grands signes pour arrêter, parce qu'il faut qu'on arrête un peu plus tôt. C'est passé trop vite, mais j'aimerais quand même juste vous faire réagir à particulièrement Jérôme et à Bibich, mais peut-être Patrick aussi. Il y a une exposition en ce moment au Palais de Tokyo qui s'appelle Apprendre à flamboyer et qui retrace le lien entre les enjeux politiques et le militantisme. Mm-hmm. Ce lien entre joie et militantisme, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Mais donc, je dois répondre en 35 secondes à un enjeu qui fait 25 pages dans mon livre, c'est impossible.
Ah ben, on dira ton livre quand tu seras là.
Moi, je suis d'accord pour réinstituer la joie en tant qu'outil politique et potentiellement révolutionnaire si elle s'accompagne d'actions directes politiques et révolutionnaires. C'est-à-dire que la joie en tant que telle, pour moi, elle n'est pas politique si elle ne va pas main dans la main avec de l'action révolutionnaire, surtout dans les temps actuels où le fascisme n'est pas à nos portes, le fascisme est entré, surtout dans les temps actuels où très très peu d'artistes se positionnent pour la libération, la décolonisation de la Palestine, parce que Tahia Tahia Palestine, hein, from the river to the sea, Palestine will be free, c'est très important de le dire, on est très très peu à le dire, et c'est un enjeu décolonial, c'est un enjeu politique la Palestine, donc je trouve que l'art devrait être un outil politique, et je trouve même que pour aller plus loin, l'art s'il n'est pas politique n'est pas de l'art, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas l'art qui n'est pas engagé dans la mesure où pour moi de toute façon même ne pas se positionner c'est se positionner, donc oui, flamboyer et militer c'est possible, I mean regardez-moi, c'est complètement possible. À condition que ces choses soient faites à un niveau d'investissement égal. Voilà.
D'accord. Vous voulez réagir 30 secondes là-dessus?
Non, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça super.
Ok, bah merci à tous les trois.
Merci beaucoup. Okay. Bisous, Paris.
R22, tout le monde. R22, en paix, tout le monde. Radio Bourg.